à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses de l'actualité sportive. Ce soir, nous revenons sur les différents décès de footballeurs en plein match. Plusieurs professionnels ont connu en Europe des sorts funestes similaires, tels que les Camerounais Marc-Vivien Foé, on s'en souvient en 2003, ou encore récemment le Camerounais Patrick Ekeng, ou le joueur burkinabé Monsieur Démé qui vient de décéder ce week-end. On attend vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous appeler en direct au 001 202 619 31 40. Et avec nous ce soir, nous devrions avoir Thierry Kabundi de Top Congo FM en RDC, Élisée Nkpatine de Boïkon au Bénin, ou encore Amdine Si, notre correspondant à Dakar. Mais avant tout cela, on va faire un petit tour de l'actualité sportive de ce début de semaine, avec notamment les Jeux paralympiques, avec l'Éthiopien qui proteste contre son gouvernement et qui a été rappelé à l'ordre. Il s'agit de l'athlète Tamirou Démessé, vainqueur de la médaille d'argent du 1500 mètres des Jeux paralympiques dimanche. Il a été sévèrement rappelé à l'ordre par le comité organisateur après avoir fait un geste de protestation contre son gouvernement. Il faut savoir que ce geste est utilisé lors des récentes et importantes manifestations antigouvernementales violemment réprimées en Éthiopie, ce qui faisait écho à celui effectué en août dernier par son compatriote, le marathonien Feyisa Lilela. Ce geste a été qualifié lundi de hors sujet par le comité paralympique international. Une petite réaction avec vous, Élisée, par rapport à ce geste qui se maintient à travers les grandes compétitions sportives.
Oui, Tatiana, bonjour et bienvenue à Boïkon au Bénin. Et bonjour également à tous les amis de la VOA, surtout de Sporama. Il faut dire que c'est des gestes fréquents, surtout quand ces athlètes sont souvent en désaccord avec leur fédération. Eh bien, on se rend compte souvent ces gestes. Et ce qu'il faut dire, c'est que à des moments donnés, il faudrait avoir l'esprit de fair play, puisque là, cet athlète a plusieurs fans, il a le support de tout un pays et devrait se résigner par rapport à cette situation-là. Mais voilà, il a le fait déjà dommage, mais prochainement il devrait se contenter du sportif seulement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Faire donner quand même des médailles à sa nation pour que ce pays soit cité parmi les plus grandes nations d'athlétisme.
Alors justement, l'Éthiopie reste l'une des grandes nations d'athlétisme, notamment en demi-fond. Thierry, vous êtes à Kinshasa pour Top Congo FM. Je me dirige vers vous. Alors, le comité paralympique international a qualifié ce geste de hors-sujet, un geste qui avait déjà été reproduit par son compatriote. Est-ce que les sportifs doivent s'impliquer, doivent être activistes?
Écoutez, c'est souvent difficile pour des athlètes de s'exprimer en dehors de leur surface de prédilection, ça c'est d'une part, et de l'autre, il y a la loi, il y a les mesures également qu'il faudrait respecter. Rappelez-vous que les footballeurs, il est toujours interdit d'exhiber des messages lorsqu'ils marquent un but ou lorsqu'ils célèbrent une victoire. On l'a vu Neymar à la finale remportée par le Barça en 2015. On a vu récemment chez nous d'ailleurs le capitaine Youssouf Moulumbu qui, lors du match RDC Centrafrique le 4 septembre dernier, a exhibé un t-shirt paix à Beni pour penser aux victimes de la guerre à l'est de la RDC. C'est souvent interdit par la FIFA, par la CAF, mais je comprends d'autre part également que ces athlètes de haut niveau n'ont aucun endroit où faire passer ce genre de messages que à des pareilles compétitions, mais seulement il faut se conformer à la loi, il faut se conformer au règlement et il faut éviter justement des messages extra-sportifs dans des contextes pareils.
Alors, changement de décor, on va passer à l'US Open de tennis, le tournoi de Flushing Meadows à New York, où le numéro 1 mondial redevient un simple mortel. Messieurs, pendant les 6 premiers mois de l'année 2016, le Serbe Novak Djokovic a fait la loi sur le circuit masculin. Depuis, il a enchaîné de sérieux rater à Wimbledon d'abord, à Rio lors des Jeux 2016 et pour finir en finale de l'US Open ce dimanche. Le numéro 1 mondial n'a été que l'ombre de lui-même face à Stan Wawrinka. Il a fait illusion pendant une manche, mais il s'est rapidement retrouvé à court de solutions face au Suisse qui s'est offert son troisième titre du Grand Chelem en 4-7. Je rappelle les scores 6-7, 6-4, 7-5, 6-3. Élisée, on revient vers vous. Novak Djokovic qui s'effondre.
Oui, Novak, il faut dire qu'il est désormais l'homme à battre. Hein. Vous êtes sans savoir que pour arriver à ce niveau-là, il s'est bataillé très fort. On a vu des tennismen comme Roger Federer, hein, l'homme pour moi hein, reste et demeure hein, le tennisman le plus célèbre durant ces 10 dernières années. Et notamment, le seul Rafael Nadal, hein, on connaissait pratiquement ces deux tennismen à l'autre grand surprise. Bien, Novak Djokovic qui est resté dans l'ombre de ces deux tennismen là et bien a vu sa prestation récompensée. Et puis, depuis, il a commencé par... Oui.
Allô Thierry.
Oui.
Thierry. Thierry, oui. Thierry, est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis là.
Alors Thierry, une réaction, Novak Djokovic qui perd face au Suisse Wawrinka à l'US Open. Et finalement, il n'est pas infaillible.
Ah, il n'est pas infaillible. Vous l'avez dit après les mémoires de l'année en camp, Novak Djokovic est en train justement de baisser de régime. Je l'ai vu en Roland Garros, il avait visiblement un problème de fraîcheur. Mais il ne faut pas oublier qu'il a perdu contre celui que je commence à qualifier de bête noire de Novak Djokovic, hein, le Suisse Stanislas Wawrinka, qu'il avait déjà battu à la finale de Roland Garros, rappelez-vous. Hein, donc, ça devient. Wawrinka devient visiblement la bête noire du numéro 1 mondial qui, tout de même, peut se rassurer d'avoir creusé l'écart face à ses poursuivants directs, notamment Andy Murray, qui est numéro 2 mondial. Le dernier classement ATP le prouve. Et donc, il y a une épaisseur assez importante, un matelas important de points qui lui permet, malgré cette défaite, de se maintenir numéro 1 mondial. Mais c'est une très, très bonne chose pour Stan Wawrinka. Malheureusement, Djoko n'a pas pu terminer la saison en beauté comme il a commencé en remportant cette US Open.
Alors, on va ouvrir notre page foot, notamment avec l'UEFA, la fédération allemande. Elle dénonce la présence de Michel Platini, le président de la fédération allemande de football.
Allô ?
Reinhard Grindel Allô ? A critiqué l'autorisation.
Allô ?
Alors, on a du mal, apparemment. On va revenir sur la page foot. Michel Platini, oui, qui a été critiqué par la Fédération allemande de football. La Fédération demande à ce qu'il ne puisse pas assister au congrès extraordinaire de l'UEFA qui doit désigner le successeur, justement, du Français à la tête de l'instance européenne. Il faut rappeler que Michel Platini avait été sanctionné par la justice interne de la FIFA dans l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros de la part de Joseph Blatter, l'ancien président de la FIFA, sur la base d'un simple contrat. On va aller au Sénégal avec Amdine Sy, notre correspondant. Amdine, est-ce que aujourd'hui, même si la FIFA prend des sanctions, est-ce qu'elle a quand même le droit d'inviter un Michel Platini à s'exprimer face à tous les présidents des fédérations européennes?
Voilà, merci. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique et les auditeurs de ce forum. Je pense que Michel Platini a le droit quand même d'assister à ce congrès parce que tout simplement, il reste et demeure le président de l'UEFA jusqu'à présent. Donc, il doit assister à ce congrès. C'est la guerre entre Michel Platini et Blatter qui continue jusqu'à présent, alors que ce n'est pas normal. La page doit être tournée. On attend les élections. Il doit avoir un successeur. Attendons la passation des services. Après, Michel Platini va s'occuper d'autres choses. Mais pour le moment, ce qu'on est en train de vivre n'est pas digne des responsables de haut niveau. Les responsables du football mondial et du football européen n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas le droit de se chamailler comme des gamins. Ce n'est pas normal.
Alors, on sait que ça a été...
Européen, oui. Le football mondial mérite autre chose que ça.
Alors, c'est vrai que ça a été le remue-ménage. Effectivement, ça a été le remue-ménage aussi bien dans les fédérations européennes que les instances internationales. Alors, on sait que mardi s'ouvre la Ligue des Champions. C'est le retour de la piste aux étoiles. Les premiers matchs auront lieu à partir de 19h45 en heure GMT sur tous les terrains d'Europe, avec une première journée marquée par le choc entre deux outsiders qui se cherchent, Paris Saint-Germain et Arsenal, et par l'entrée en lice de l'incontournable Barça contre le Celtic. On retourne vers le Bénin avec Élisée. Élisée, cette première journée avec en tête d'affiche le PSG contre Arsenal.
Oui, le Paris Saint-Germain qui va affronter un certain Arsenal d'Arsène Wenger qui revient en France, hein, ancien entraîneur de l'AS Monaco. Et bien Arsène Wenger n'a jamais eu la chance d'affronter le club parisien. Et bien cette saison, le Paris Saint-Germain, pour moi, n'a pas encore trouvé son rythme. Hein. C'est vrai qu'en championnat, et bien cette équipe a du mal, hein, a même encaissé une première défaite, hein, face justement à l'ancien club d'Arsène Wenger, l'AS Monaco. Est-ce que en face, hein, Monaco qui a perdu son premier match en championnat et qui s'est repris par la suite et qui a retrouvé une confiance, est-ce que les Parisiens pourront marcher, hein, sur ces Anglais-là, surtout quand on sait que l'objectif désormais pour le Paris Saint-Germain, c'est la demi-finale. Maintenant, reste à savoir si le départ, hein, d'Ibrahimovic pourra permettre à cette équipe parisienne de trouver une attaque qui pourra répondre, hein, face à ces clubs anglais. Attendons de voir, mais ce sera un match très intéressant avec deux styles différents.
Amédine, un petit mot sur cette affiche. Il ne faut pas oublier aussi le Barça contre le Celtic.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison, mais le choc demeure quand même le match Arsenal contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est le retour d'Arsène Wenger en France, mais également on a hâte de voir cette équipe du Paris Saint-Germain qui ne marche pas fort en ce moment avec le nouvel entraîneur. Ça ne va pas fort parce que le Paris Saint-Germain vient d'enchaîner non seulement une défaite, mais également un match nul. Ils ont été tenus en échec par Saint-Etienne en match avancé de la 4e journée de la Ligue 1 française vendredi dernier. Maintenant, le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est le début de la compétition, mais ils n'ont pas droit à l'erreur parce que c'est un test grandeur nature pour le nouvel entraîneur.
Effectivement.
Parce que, tout simplement, Laurent Blanc a déjà fait ses preuves sur le plan national. Même sur le plan international, il est arrivé à faire de cette équipe du Paris Saint-Germain un des plus grands Européens qui vient tout juste.
Effectivement. Effectivement.
Comme le Bayern de Munich, comme Ars, comme Real de Madrid, comme Barcelone. Maintenant, il n'a pas droit à l'erreur, il doit se rectifier. On a vu que du côté d'Arsenal aussi, ça marche un peu fort parce qu'ils ont gagné leur match en championnat. Mais
oui,
ce sera aussi un test grandeur nature pour
alors, justement,
qui doit prouver également qu'il demeure un grand entraîneur.
Effectivement, Amédine, on va voir. Effectivement, Amédine,
oui.
on va justement faire le point de cette première journée une fois que le match aura été joué, mais on retiendra justement ce choc entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, et on va voir comment les équipes vont évoluer avec cette reprise du championnat. J'aimerais maintenant qu'on parle de cette nouvelle, cette triste nouvelle qui est survenue ce week-end, c'est le décès de l'ex-international burkinabé Ben Idrissa Dermé en Corse, en France. Le joueur est décédé d'une crise cardiaque en plein match de foot avec son club amateur de l'association de la jeunesse de Biguglia en Haute-Corse lors du troisième tour de la Coupe de France. Alors il était défenseur central, il avait porté à 4 reprises le maillot de sa sélection nationale et avait évolué au haut niveau professionnel à Ouagadougou, en Moldavie, au Sheriff Tiraspol et en Corse, à l'US Corté ou encore au CA Bastia. Messieurs, c'est notre débat du jour. Alors, est-ce que comment on explique ces morts subites de joueurs en pleine action? On se rappelle de Marc-Vivien Foé, on se rappelle encore de Patrick Ekeng. C'est arrivé malheureusement à d'autres joueurs que des joueurs africains. Mais comment on explique ces morts subites qui s'enchaînent ces dernières années, Élisée?
Oui, Tatiana, il faut le dire, hein, à part Marc Julien Fouré, hein, lors de cette demi-finale contre la France, on se rappelle en 2003, lors de la Coupe des Confédérations, il faut dire que d'abord, la plupart sont morts par crise cardiaque, ça veut dire que quelque part au niveau de l'infirmerie, le travail n'a pas été effectué normalement, puisque avant même de s'engager avec un club, il faudrait faire une visite médicale ou bien à chaque début de saison, après la préparation physique, ne devrait prendre pas par l'infirmerie pour pouvoir bien contrôler son cœur, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça veut dire que quelque part, il manque ce travail au niveau de l'infirmerie.
Alors, oui, il faut un suivi médical.
Concernant les Africains, c'est des choses qui se passent maintenant. Dommage, puisque normalement, les premiers soins doivent être effectués d'abord au bord des stades, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on a vu Patrick Ekeng qui a succombé également par crise cardiaque, notamment l'autre joueur qui était décédé du côté de l'Algérie, lui aussi, Albert Ebossé, voilà, le nom est arrivé.
Effectivement, Albert Ebossé, oui.
C'est des choses, c'est des situations déplorables. Il faudrait que la FIFA organise des formations à l'endroit de ces médecins-là pour que, ou bien, instruit fermement les clubs pour qu'ils.
Effectivement, Élisée.
Pour qu'ils puissent permettre à ces clubs-là d'avoir les premiers soins en attendant qu'on évacue.
Merci Élisée. On va prendre la réaction de Thierry. Vous êtes toujours avec nous depuis Kinshasa. Alors Thierry, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, on n'a pas encore tiré. En tout cas, on va prendre une réaction Facebook, celle de Patrick Moubana, qui nous dit « Les médecins des clubs travaillant pour la santé des joueurs doivent classer les joueurs en forme et ceux non en convalescence. » On a encore Oumar Mahamat Tahir qui lui nous dit « Une telle action se produit lorsque le joueur a une petite maladie et insiste pour jouer. Parfois, le manque d'analyse sur l'état de joueur fait défaut. » Une autre réaction, celle de Zinsou Barthélémy Zobiar, qui nous dit « Il faut une surveillance des joueurs 72 heures avant le match. » On reprend la direction du Sénégal avec Amédine. Amédine, est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut en permanence suivre, avoir un électrocardiogramme sur chaque joueur avant qu'il sorte sur le terrain?
Parce que les joueurs doivent être suivis régulièrement. Je vais vous en refaire un cas au Sénégal. Vendredi dernier, pas plus tard que vendredi dernier, un international de l'équipe U20 du Sénégal est décédé à l'entraînement après 5 minutes d'échauffement seulement. Il est décédé. Donc, et ironie du sort, le jour de l'enterrement, on nous a fait savoir, il y a 10 ans, son papa est décédé le 10 septembre. Il y a 10 ans, le 10 septembre, comme son fils, son père avait un problème cardiaque. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, tout simplement, au niveau des clubs, on ne fait pas le boulot normalement sur le plan médical. C'est simplement ça. Parce qu'au Sénégal, il y a des joueurs qui sont licenciés, qui doivent avoir des visites médicales, mais ils ne vont jamais chez le médecin. Ce sont les dirigeants qui vont trouver des arrangements avec les médecins pour avoir le licence et on fait le cachet médical sans pour autant passer la visite médicale. C'est grave, c'est très grave. C'est pourquoi quand il y a des décès au niveau international comme celui que vous venez d'évoquer, moi je me dis que ça pose problème si ça arrive au plus haut niveau. Maintenant, je pense que la FIFA et la CAF doivent dire stop. On doit arrêter.
Effectivement. Et c'est ça qui pose problème, parce que là, ce sont des joueurs qui évoluent en Europe, justement. Ce sont des joueurs qui évoluent dans le championnat européen, dans les championnats nationaux en Europe, du moins. Et on s'attend quand même à ce qu'il y ait un encadrement médical un peu plus vigilant. On a Alphonse Boisky qui nous dit « Même la prise excessive des médicaments pour renforcer sa condition physique, prescrite par un médecin, peut s'avérer fatidique. Un joueur dans la carrière de un joueur dans la carrière de l'intéressé est tenu de rester naturel plutôt que d'absorber régulièrement des antibiotiques et autres produits de force physique ou de puissance sexuelle. » Ça, en tout cas, c'est ce que nous dit Alphonse Boisky depuis Kinshasa. La question se pose de savoir comment les joueurs sont suivis et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui prévenir ces morts malheureusement accidentelles. Élisée, si nous n'avons pas Thierry depuis le Congo, nous n'avons toujours pas Thierry. Donc on va retourner vers le Bénin, à Boïcon. Élisée, est-ce que il faut aujourd'hui être plus vigilant auprès des clubs, notamment même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens?
Ce qui est évident, hein, c'est normal, je le disais tantôt, la FIFA, non seulement, mais l'UEFA et les différentes fédérations des pays doivent être vigilants, hein, doivent à chaque début de saison déployer des inspecteurs pour pouvoir aller inspecter ces clubs. Vous imaginez, cela ne se produit pas souvent au niveau des grands clubs, le Real, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain, Marseille, Juventus, pour ne citer ceux-là, puisque c'est des choses qui ont été prises souvent au sérieux. Donc, c'est-à-dire que là, ça arrive souvent dans des clubs qui évoluent en division inférieure, en deuxième, troisième, pourquoi pas, en division d'honneur. Donc, désormais, les fédérations doivent être vigilantes hein, par rapport à ces mesures-là, doivent dépêcher des experts pour qu'à chaque début de saison, ou bien même en pleine saison, pour pouvoir superviser, hein, ou bien vérifier si ces clubs-là ont les moyens nécessaires pour pouvoir avoir hein, un accadement médical pour suivre, bien sûr, ces joueurs pour que ces situations ne se produisent pas.
Donc il faudrait plus de surveillance, plus de contrôle en amont. Alors on a ce commentaire intéressant de Salao qui nous dit, des fois ce sont des contrats mystiques qui arrêtent leur carrière brusquement, mais surtout ce qu'il y a d'intéressant dans son commentaire, c'est qu'il dit des fois ils trompent sur leur âge et vont au-delà avec leur carrière. Alors Amédine, justement cette question qui est parfois tabou de l'âge qui est modifié des joueurs, est-ce que quand ils arrivent en fin de carrière, au lieu d'avoir 25 ans, en fait ils en ont 30, Amédine, est-ce que ce n'est pas aussi un problème ? Amédine depuis le Sénégal. Alors on nous annonce que...
D'habitude, ils diminuent leur âge, on a l'habitude de le dire, mais concernant cette situation, je pense que c'est de la négligence, des clubs, du staff médical de ces clubs, parce qu'on ne doit pas jouer avec la vie des gens. Avant d'engager un joueur, on doit savoir si, sur le plan médical, il est apte, sinon ça pose des problèmes. Mais comme vous le dites, l'âge des joueurs, surtout venant d'Afrique, pose problème. On le sait. Moi, j'ai l'habitude de dire à des gamins qui sont en Afrique, quand vous diminuez votre âge, il faut prendre ça en compte quand vous allez à l'extérieur. Pour que cela ne puisse pas vous créer des problèmes.
Effectivement, il ne faut pas que ça leur porte préjudice. Thierry, vous êtes de retour avec nous depuis Kinshasa. Thierry, nous avions déjà lancé cette discussion sur la mort subite de ces joueurs, notamment africains, lors de matchs. Thierry, on parlait de cette question de l'âge, par exemple, des joueurs qui baissent leur âge, qui veulent en paraître 25, mais qui en ont 30, que des accidents cardiaques fauchent en plein match. Comment vous analysez ça?
C'est vrai que c'est un débat qui n'en finit pas en Afrique, hein, même si aujourd'hui les plus grandes instances qui gèrent le football ont pu trouver des mécanismes pour repérer l'âge des athlètes. C'est les moins de 17, moins de 23 ans. C'est vrai que les athlètes africains ont souvent tendance à faire baisser l'âge. Mais moi, j'aborderai plutôt ce dossier, cette triste nouvelle dans sa facette médicale. C'est vrai qu'en début de saison, les joueurs ont une batterie de tests à passer avant de se lancer en pleine saison. Mais entre les tests qu'ils passent et qui révèlent des résultats sur le moment et la situation qu'ils vivent une semaine, deux semaines, trois semaines après, il y a l'eau qui coule sous les ponts, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça peut se faire qu'il avait une maladie virale qui le dérangeait, qu'il était déshydraté sur le moment ou qu'il avait un autre souci de santé qui n'a pas pu être repéré et qui l'a contraint justement à subir ce choc-là, à appliquer cette crise et pour que les interventions n'ont pas pu réanimer cet athlète burkinabé, il est parti. Donc il faut voir cela dans tous les aspects. Je ne pense pas forcément que c'est suite à l'âge qu'il a dû trafiquer que cela a conduit à cette situation, même si, et je le sais, le cas Lilian Thuram, l'ancien international français, en 10 ans, que des joueurs à un âge très avancé connaissent d'autres problèmes. Peut-être que le cœur ne résiste plus à certaines circonstances. Lilian Thuram a fait une brillante carrière de footballeur professionnel, mais lorsqu'il a quitté le FC Barcelone pour revenir jouer chez lui, il a découvert ce problème de cœur. Donc à cet âge-là, dans la trentaine, les joueurs ont souvent des problèmes de santé et souvent des problèmes de cœur. Il faudra faire très 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 attention à cela. Malheureusement, c'est arrivé, mais je pense que les clubs devraient à la longue chercher à comment renforcer, passer un ou deux ou trois examens sur la saison pour essayer d'éviter au maximum ces cas de crise cardiaque.
Effectivement, et c'est ce qu'on retiendra, un suivi, un vrai contrôle des joueurs tout au long de l'année, qu'ils soient dans les petits clubs comme dans les grands clubs, aussi bien pour les fédérations africaines que pour les fédérations européennes. Et surtout, prenez soin de vous, faites du sport, continuez de faire du sport malgré les défis. On clôt ce débat sur les morts subites de ces joueurs africains sur le terrain. Merci à tous nos invités d'avoir été présents avec nous. Je vous rappelle les grands titres d'aujourd'hui. C'est cet Éthiopien qui proteste contre son gouvernement pendant les Jeux paralympiques et qui a été sanctionné. Ou encore ce Michel Platini qui a été critiqué pour pouvoir participer au congrès extraordinaire de l'UEFA. Et puis surtout, ne manquez pas, je sais que vous serez fidèles, à la première journée de Champions League qui reprend dès demain à 19h45 avec le choc Paris Saint-Germain et Arsenal, et bien sûr Barça contre le Celtic. Restez sur VOA Afrique pour plus de nouvelles. Merci à vous, Élisée Ongpatine depuis le Bénin, Thierry Kabundi depuis la RDC, et encore Amdine Sy depuis le Sénégal. Restez sur VOA Afrique et voaafrique.com pour plus de nouvelles et sur notre page Facebook, bien entendu. Merci à tous, merci à Michel Joseph derrière la console ainsi qu'à Fred Ner. Restez fidèles à Sporama.